bienvenue donc à cette conférence dans le cadre de la Fête de la Science 2011. On a aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on va avoir des liens à établir avec le cordon ombilical de la technique qui n'est pas toujours évident à gérer. Donc à 21h, on a un contact avec un lieu un peu éloigné de nous qui s'appelle le Centre des Arts à Enghien. Donc très rapidement, moi je vais contextualiser et passer très vite la main à nos invités. Donc ce soir, nous allons parler de nanotechnologie, nanosciences, sous un angle un peu particulier qui est celui de la création. Pour recontextualiser encore plus, c'est le plaisir qu'on a cette semaine et depuis un contact qu'on a depuis quelques temps avec une artiste qui s'appelle Selma Lepard, qui se présentera tout à l'heure, et le travail et l'œuvre déjà conséquente malgré son jeune âge autour de la réflexion, entre autres, de l'usage des nanotechnologies en tant que matière, des nanoparticules. À côté de moi, donc Jean-Sébastien Filol, qui a fait le déplacement de Montpellier pour venir nous parler à la fois de la collaboration qui a été établie à Montpellier avec Selma pour la mise en place de l'œuvre que vous avez eu le plaisir de voir à l'instant, et puis surtout parce que c'est un scientifique qui fait un travail aussi assez remarquable de médiation, de pédagogie, pour essayer d'expliquer aux citoyens que nous sommes ces choses qui sont invisibles et insaisissables, en l'occurrence les nanoparticules, les nanosciences, enfin des choses qui parfois peuvent nous dépasser et pourtant qui sont bien présentes. Et enfin, à côté de moi, j'ai l'honneur, l'immense honneur d'accueillir Yves Senatiempo, qui est notre référent scientifique, un responsable scientifique au sein de l'espace Mendès France, qui nous a déjà accompagnés sur des projets artistiques. Alors je citerai rapidement un projet assez remarquable et remarqué avec Eduardo Cax, hein, à l'invitation de Rurart, un lieu de diffusion artistique situé à quelques kilomètres de Poitiers, et qui nous a aidé vraiment sur une démarche, je crois qu'il y a pris du plaisir, hein, mais une démarche réellement difficile, qui finalement se situe dans un domaine qui, je pense, peut intéresser certains d'entre vous, et qui concerne le rapport entre l'art et les sciences. C'est pas un débat totalement nouveau, mais c'est un débat en tout cas éminemment d'actualité. Donc pour recentrer sur les nanotechnologies, je vais commencer peut-être, alors là vraiment d'un point de vue scientifique, donner très rapidement la parole à Yves pour savoir de quoi on parle, de quelle matière, de quels objets, qu'est-ce que c'est, et essayer d'expliquer en quelques minutes que sont les nanotechnologies, que sont les nanosciences.
Merci. Donc moi, je suis fier de cette soirée à l'espace Mendès France pour une raison relativement simple. On est le centre de culture scientifique et l'espace en France qui a organisé sûrement le plus de rencontres, de conférences sur les nanotechnologies, puisque en 2010, on a organisé 4 journées complètes sur les nanotechnologies. On a accueilli 30 conférenciers. Cette année, on a eu une journée nationale interterritoriale avec des connexions en webconférence. Et comme j'ai le plaisir de le dire, on n'a jamais eu aucun incident. On a toujours débattu sereinement, y compris avec des opposants aux nanotechnologies, puisqu'il y en a. Apparemment, on pourra aborder cette question sans doute ultérieurement. Donc, de façon très, très brève, je vais utiliser ma première diapositive de présentation et ensuite la dernière. Et entre-temps, habituellement, dans mes présentations, il y a à peu près 2 heures. Alors donc là, je vais vous faire grâce de 1h58 de baratin, entre guillemets, juste pour resituer, pour remettre vraiment les choses au clair concernant les nanosciences et les nanotechnologies, donc pour vous définir dans quel monde on se trouve en règle générale, et puis pour faire la transition avec le volet nano-art. Moi-même, je suis scientifique et pas artiste, et j'ai toujours souffert de ne pas être considéré comme un artiste. Je me suis même bagarré une fois avec un sous-préfet en disant que les scientifiques, quelque part, étaient des artistes, et le sous-préfet prétendant le contraire. Bon. Bref, alors les nanotechnologies, vous avez ici une échelle de grandeur qui est présentée sous forme dite logarithmique, Alors, je dois avoir un pointeur qui fonctionne. Je vais prendre le micro et me lever. Donc, vous avez une échelle de grandeur, sachant qu'on part ici du millimètre et on descend dans l'échelle 100 micromètres, 10 micromètres, 1 micromètre ou 1 micron. On est ici à 100 nanomètres, 10 nanomètres et 1 nanomètre. Et donc, ce que l'on considère comme étant le domaine des nanotechnologies, c'est le nanomonde. Et ce nanomonde, on le définit, mais assez grossièrement, comme étant celui qui comprend tous les objets qui sont compris entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Donc, lorsqu'on parle de nanomonde, nanotechnologie, nanosciences, on est dans une échelle de grandeur. Donc, on considère les objets qui ont cette taille. Donc, ça va induire un certain nombre de propriétés, mais vous comprenez aisément qu'on est face à une certaine hétérogénéité, puisque n'importe quel objet qui a cette taille, qui est dans ces dimensions-là, pourrait être considéré comme tel, comme entrant dans le domaine des nanosciences ou des nanotechnologies. Alors, pour vous indiquer de quoi on parle, en gros, si on considère que le diamètre moyen d'un cheveu, c'est 100 micromètres, lorsqu'on arrive au monde des bactéries, on est à peu près à l'échelle de 1 micron, 1 micromètre. Et ici, vous avez le fameux virus de la grippe H1N1 dont vous avez pas entendu parler il y a environ 2 ans. Et vous voyez qu'on est à la limite avec les virus, on est à la limite du nanomonde. Donc vous pouvez considérer que les virus, en particulier le virus de la grippe, c'est déjà un nano-objet. Si on va plus loin, et à l'échelle inférieure, eh bien on va arriver à l'échelle atomique. Ici, vous avez un cristal qui est un cristal de chlorure de sodium qui a juste une taille inférieure au nanomètre. Donc théoriquement, on est en dessous là, du nanomonde. Et donc, plus bas, ben on est vraiment à l'échelle atomique, l'échelle moléculaire, à l'échelle atomique. Donc ça, c'est pour vraiment resituer le monde et les objets dont on va vous parler toute la soirée. Deuxième aspect, et donc c'est là que je vous dis que c'est en général la fin de mes présentations, et ce sera la fin aussi ce soir, avant que nous entrions dans les débats, pour vous dire que de tout temps, on a fait des nanotechnologies sans le savoir, puisque des artistes qui travaillaient sur la fabrication de vitraux utilisaient pratiquement sans le savoir des nanoparticules d'or et qui avaient une influence sur la couleur des vitraux. Et Jean-Sébastien Filleul vous parlera de cela de façon bien plus savante que moi. Je vous projette ici quelque chose qui est beaucoup moins connu mais qui est à mon avis intéressant. Et si vous avez la possibilité de noter, je vous recommande d'aller sur ce site web, puisqu'il y a, ça vient d'une université danoise, et cette université danoise publie tous les ans des posters qui sont des représentations de liposome, donc des structures qui sont à la limite des nanotechnologies, c'est-à-dire dans la limite supérieure. Et ce sont, pour faire ça de façon très résumée, ce sont des espèces de petits sacs qui peuvent contenir des molécules ou des particules, et selon la composition de la membrane qui entoure ou qui constitue ces sacs, par une technique de microscopie, on peut avoir ce type de représentation, et vous voyez que c'est absolument magnifique. Et là, je vous ai présenté un poster, et tous les ans, ils produisent un poster différent, et comme ils sont très sympathiques, je leur avais demandé l'autorisation d'utiliser leurs images, et ils m'ont donné leur autorisation, donc c'est pour ça que je le fais ce soir. Donc, pour moi, je considère que l'on est dans ce monde des nanotechnologies vraiment très, très ouvert à la disparition de cette frontière entre science et art. Et c'est ce qui va vous être développé, puisque ce soir, on a une chance que je considère comme étant inouïe, puisqu'on va avoir des duos entre Issy et Enguin, où on a à la fois des artistes et des scientifiques qui ont osé travailler ensemble et qui ont produit pour Issy une œuvre. Et à Enguin, une exposition. Donc, je vais passer la parole à Jean-Sébastien et en remerciant ceux qui sont venus de l'extérieur ce soir pour nous apporter un éclairage qui va nous intéresser, bien évidemment.
Voilà, à toi.
Merci. Donc, je suis Jean-Sébastien Filleul, je viens de Montpellier, comme on vous l'a dit précédemment. Je suis maître de conférence et je vais vous parler un petit peu d'éducation, d'art et de nanotechnologie. Ce qui peut sembler un petit peu étrange comme ça. Mais pourquoi ? En fait, à Montpellier, on a monté une UE, une unité d'enseignement à l'université qui s'appelle chimie-sciences magiques. Alors c'est quoi chimie-sciences magiques ? C'est quelque chose, une expérience un peu particulière où on veut montrer aux étudiants de première et deuxième année, donc ils n'ont pas l'air tellement plus vieux que vous, vous êtes peut-être même plus vieux que mes étudiants, qu'on peut faire de la très haute technologie relativement facilement. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences des matériaux pour réussir à faire ce genre de choses. Donc, on a créé cet UE en 2003-2004 et on a essayé de rendre justement la chimie un petit peu amusante. Donc, le but, c'est vraiment de réussir à faire des choses assez incroyables tout en s'amusant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des matériaux thermomètres, ce qu'on appelle des thermochromes, qui vont changer de couleur quand on va changer la température. On va faire des matériaux lucioles qui vont briller dans le noir, soit quand on va les mettre en présence de lumière ultraviolette ou spontanément. Ça va être des matériaux fluorescents, phosphorescents. On va faire le fameux matériau hérisson, dont vous avez vu une petite démonstration tout à l'heure, qui est simplement en fait un ferrofluide qui va se mettre à faire des pointes quand on va approcher un aimant près de lui. Les matériaux volants. Alors, les matériaux volants, c'est les supraconducteurs. Vous avez un exemple sur la photo juste ici où on va avoir ces espèces de pierres noires qui vont pouvoir s'envoler dès qu'on va pouvoir, on va les refroidir à moins de 200 degrés sous zéro. On va avoir des matériaux papillons qui sont ce qui est présenté ici, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, qui sont en fait des opales. Et on a aussi récemment fait des matériaux type pierres précieuses comme les saphirs qui sont juste ici. Donc,
qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, le but, c'est de s'amuser, mais ça permet aussi d'apprendre des choses. Parce qu'on apprend à nos étudiants à trouver l'information pour faire les synthèses, savoir se répartir le travail, parce que maintenant, si on est un groupe d'étudiants, c'est pas la peine de faire trois fois la même chose. Il suffit de savoir organiser les différentes choses à faire entre vous. Savoir travailler en sécurité, parce que la chimie, on en reparlera un peu plus tard, mais on manipule les choses qui sont potentiellement dangereuses. Et comme un de mes maîtres a tendance à le dire, la chimie, c'est pas dangereux. C'est juste, ça devient dangereux juste quand on ne sait pas utiliser la chimie, qu'on peut avoir quelques petits problèmes. Alors, ensuite, il faut savoir aussi utiliser les moyens de communication modernes. On a Internet, on a des vidéos, on a tout. Donc, il faut sortir un petit peu de l'enseignement classique. Il faut être capable d'utiliser ces nouveaux moyens et les intégrer. Alors, aussi, il faut sortir un petit peu de la classe ou l'université. Et pour ça, on essaie de faire des interactions avec l'extérieur. Alors bien sûr, ça peut être l'interaction avec le milieu industriel, avec le milieu de l'enseignement, mais aussi avec, par exemple, Selma Lepard, pour justement essayer de voir comment on peut aider au développement d'œuvres. On fait aussi des développements pour se faire connaître du grand public, par des actions auprès du grand public, bien sûr, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Mais aussi, on a développé des outils spécifiques comme la valise magique où on va chez les scolaires pour leur montrer que ben, la science, ça peut paraître magique, mais ce n'est pas de la magie, c'est vraiment de la science. Bon, pour revenir au thème de cette conférence qui est sur les nano-objets art et nature, j'en reviens un petit peu à ce qu'on a parlé précédemment. D'après vous, depuis combien de temps est-ce que l'homme sait faire des nano-objets ? 20 ans ? Alors, j'ai 20. Qui dit mieux que 20 ans ? 700 ans ? Plus ? 2000 ? Alors, on arrête à 2000 ? 400 000 ou... Bah, effectivement, c'est 400 000 ans. Parce que dès que l'homme a su faire du feu, c'était à peu près il y a moins 400 000 ans, en fait, il a produit des nanoparticules sans le faire. Vous avez la molécule qui est une molécule de carbone, qui est la molécule en fait, de C60, qu'on appelle aussi le fullerène ou le footbaleine, qui ressemble à un ballon de football, qui est composé que d'atomes de carbone, et en fait, qui est formé dès qu'on a des combustions incomplètes. Donc on a retrouvé du C60 dans les grottes où nos ancêtres faisaient du feu, pas parce qu'ils fabriquaient spécifiquement du C60, simplement parce qu'ils faisaient du feu, et dès qu'on fait du feu, on en fabrique. Donc, en fait, on a su en fait qu'ils étaient capables de le fabriquer simplement depuis 1985, même si ça fait 400 000 ans qu'on sait le faire. Alors ensuite, il y a aussi on a fait depuis très longtemps la nanotechnologie sans le comprendre. Alors, par exemple, vous avez les vases en verre gréco-romains, qui datent, celui-là date du 4e siècle après Jésus-Christ, qui présente ses particularités, qui sont purement liées aux nanotechnologies. Quand il est éclairé de face, il apparaît vert. Quand vous l'apparaissez, vous l'éclairez de derrière, il apparaît rouge. Et ça, c'est lié à la présence de nanoparticules d'or directement à l'intérieur du verre de votre vase. Et ça, ça a quasiment 2000 ans. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, il y a les vitraux. Les vitraux, en fait, vous avez plein de nanoparticules dans les vitraux. Le rouge des vitraux, c'est des nanoparticules d'or, tandis que le jaune, ça va être des nanoparticules d'argent. Et en fait, on va voir que ces nanoparticules, en modifiant leur taille, elles vont avoir des propriétés, en particulier des couleurs complètement différentes. Et en fait, on sait que la couleur de ces vitraux, c'est lié à des toutes petites particules que depuis la fin du 19e siècle. Donc sur les 700 ans où on sait faire ce genre de vitraux, ça fait simplement depuis à peu près un petit peu plus d'un siècle qu'on sait qu'il y a des petites particules, et on ne savait même pas que c'était des nanoparticules, depuis simplement un siècle. Alors maintenant, les nanoparticules, il y a une chose qui est intéressante de leurs propriétés, c'est que ce qui fait leur couleur, ça va être leur taille. Alors ici, je vous présente un certain nombre de nanoparticules qu'on a synthétisées au laboratoire avec nos étudiants, qui sont en fait des nanoparticules d'argent. Donc là, vous avez de l'argent massif. Tout le monde a déjà vu l'argenterie de maman planquée quelque part. Donc ça représente, vous avez tout vu, le couleur vraiment dorée. Et en fait, si on réduit la taille de nanoparticules d'argent métallique, quand elles sont grosses, elles vont apparaître noires. Je ne sais pas si vous avez tous utilisé du chlore d'argent et vous avez mis un petit peu d'agent réducteur et ça devenait noir et après ça faisait un miroir d'argent. Vous avez tous fait ça. En fait, vous avez fait des nanoparticules d'argent, mais vous avez fait des grosses nanoparticules d'argent. Ensuite, si on réduit la taille, on voit que la couleur évolue. Elle va évoluer vers le marron clair, et enfin, on va terminer vers le jaune. Les toutes petites nanoparticules d'argent, aux alentours de la centaine de juste en dessous de 100 nanomètres, ont la couleur jaune, et c'est elle qui donne le jaune de la plupart des vitraux. Oui. Alors là, elles sont colloïdales, c'est-à-dire qu'elles sont en suspension dans le liquide. Alors, elles sont tellement petites, c'est qu'il faudrait quasiment attendre un mois avant qu'elles tombent au fond de votre récipient. C'est-à-dire que plus votre particule va être petite, plus elle va mettre longtemps à tomber au fond de votre récipient. Et celle-là, il suffirait juste à l'agitation thermique, est quasiment suffisante pour les maintenir en suspension. Elle finirait par décanter, mais ça mettrait très très longtemps. Et quand vous faites le procédé dans le verre, en fait, vous faites fondre le verre, et une fois que le fer est gelé, elles ne peuvent plus quitter la phase de verre. Donc dans le verre, elles restent positionnées, c'est pour ça que la couleur est stable. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous changez la couleur d'une nanoparticule, si vous changez la taille d'une nanoparticule, vous allez changer sa couleur. Alors ça, c'est la même chose avec l'or. Donc l'or, sous forme massive, lingot, je sais pas, j'en ai jamais vu, j'en ai vu qu'en photo, mais il semblerait que c'est cette couleur-là. Et ensuite, si vous réduisez la taille, vous allez passer par le violet, atteindre des couleurs roses jusqu'aux couleurs rouges. Et cette couleur rouge, c'est justement celle qui est utilisée aussi dans les vitraux. Vous avez ce qu'on appelle le vert à l'or, qui est aussi le rubis doré ou le vert groseille, qui est aussi une variante des nanoparticules d'or qui donne, sur certains verres, en particulier les verres anglais du fin du 19e siècle, leur couleur caractéristique. Alors, pourquoi est-ce que...
Une petite minute pour la jonction avec Anguin. Mais vas-y, on peut faire encore ce slider.
D'accord. Alors, pourquoi en fait elles sont colorées, ces nanoparticules? Quand vous avez une particule qui est une nanoparticule, en fait, vous allez avoir le cœur de nanoparticule qui va être formé des atomes, et en fait, vous allez avoir les électrons qui vont être un petit peu... qui vont entourer votre nanoparticule. Mais quand elle va devenir suffisamment petite, qu'elle va devenir à peu près de la taille de la longueur d'onde visible, la longueur d'onde visible va pouvoir exciter vos électrons de votre particule, et vos électrons, en fait, vont faire un mouvement de balancier de part et d'autre de votre nanoparticule. Et ça, ce qui va induire que certaines longueurs d'onde de la lumière blanche, qui est composée de plein de longueurs d'onde, vont disparaître. Et comme vous avez certaines longueurs d'onde qui vont disparaître, votre lumière qui va traverser vos nanoparticules ne va plus être blanche, mais elle va être colorée. Donc en particulier, les nanoparticules d'or, elles vont absorber le bleu, donc, qui est la couleur complémentaire du rouge. C'est pour ça que vos vitraux apparaissent rouges. Oui. Alors, leur taille, mais en fait, leur forme. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des nanoparticules qui ne sont pas sphériques. Et quand elles ne sont pas sphériques, elles vont avoir des propriétés très particulières. Par exemple, les vitraux Ils vont toujours être rouges. Et si vous, si vous regardez le vert romain, selon la direction où vous allez la regarder, il ne va pas avoir la même couleur. C'est parce que vous n'avez pas exactement la même forme de nanoparticule dedans. Alors, elle va avoir une taille caractéristique qui sera de l'ordre, qui sera entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Voilà. C'est ça qui va la caractériser. Donc, typiquement, ces nanoparticules-là, elles sont entre 80 et 200 nanomètres.
On va passer. Oui, je pense que nous allons tenter le lien. On va sortir du nanomonde pour rentrer dans le monde merveilleux d'Internet. Donc avec Anguin, alors moi je vais le temps que Olivier fasse la jonction avec son alter ego au Centre des Arts, revenir un petit peu donc sur ce projet qui va être expliqué par les personnes qui sont présentes à Anguin. C'est donc la première expo en France, parce qu'il y a eu déjà des performances et des expos qui ont été présentées du côté anglo-saxon. Une expo donc qui s'appelle Invisible et Insaisissable. Qui est vraiment historiquement la première présentation d'un ensemble d'œuvres d'artistes français principalement qui ont travaillé, c'est la caractéristique et c'est un peu la raison de aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec des scientifiques, avec des laboratoires, tout en sachant que dans l'ensemble des personnes qui ont été impliquées, il y a aussi des artistes scientifiques ou des scientifiques artistes, comme l'évoquait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont sur un projet de présentation d'œuvres d'art. Alors vous allez voir, je pense tout de suite à Stéphane Perrault, par exemple, qui travaille sur des eaux, les eaux artificielles qui constituent notre corps, qui sont un domaine de recherche dans le domaine médical, dans le sens de la prothèse, qui utilise des principes de nanotechnologie tels que Jean-Sébastien l'a présenté.
Et Patrick, voilà. En tout cas, bravo parce que tu as une faculté pour meubler qui est très très belle. bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je suis Emmanuel Cuisinier. Moi, je suis en charge des expositions au Centre des Arts. Donc, on est en direct. Donc, voilà, ça... Centre des Arts Anguien et
Emmanuel. Ça sature un peu de votre côté. Voilà. Bonjour à l'équipe d'Anguin. Bah, je reconnais Marguerita, Niki. Je remercie à l'ensemble des protagonistes de cet échange à haut risque technologique. Bien évidemment, je remercie Emmanuel, avec lequel nous avons échangé parfois dans des situations un peu risquées également pour mettre en place cette soirée. Première chose, je vois Emmanuel qui se cache derrière. peut-être parler de cette expérience. J'étais en train d'expliquer au public de Poitiers ce que représente ce projet initié par Marguerita et Niki autour du projet Open Lab. Je tiens à rappeler qu'on les avait reçus il y a un an, on avait parlé de tout ça. C'est vrai que ça nous paraissait hyper audacieux et j'ai eu l'occasion de voir l'expo. Et j'ai été vraiment bluffé par ce travail et cette audace qui s'est concrétisée. Donc, rapidement, avec un micro, si c'est possible, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Enfin, en tout cas, Emmanuel, Marguerita et Niki, qui ont été un peu fer de lance de cette mise en place à Anguin, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est de faire une expo autour des nanotechnologies et qu'est-ce que c'est aussi de travailler et d'avoir des artistes, parce qu'on en parlera ici aussi à Poitiers, on a une artiste qui a travaillé avec des laboratoires et des scientifiques, en particulier à Montpellier. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça se fait aisément? Et est-ce qu'il y a une vraie énergie par rapport à cette volonté dans ce qu'on appelle le rapport art et science? Peut-être Margherita, je vois que tu as le micro.
Non, je vais prendre d'abord la parole, simplement, juste pour présenter. Donc, merci pour toutes ces questions. Je ne sais pas si vous les avez retenues, peut-être qu'à plusieurs, on pourrait y répondre. En tout cas, c'est juste pour vous dire, donc moi, au niveau de l'institution, c'est-à-dire juste le Centre des Arts, et après ça, je vais passer en tout cas la parole à Niki et à Margherita. L'idée, c'était de dire, ben voilà, nous, je l'ai présenté tout à l'heure au début de la visite pour le public et de notre côté. L'idée du Centre des Arts, c'était d'avoir, enfin, quand nous avons rencontré Niki et Margherita, qui étaient déjà sur ce projet Open Lab, donc l'idée d'ouvrir des laboratoires à d'autres expériences. L'idée qui était déjà en cours depuis plus d'une année, l'idée, c'est ce qui nous intéressait, c'était justement d'avoir à ouvrir la question de l'art en général, de l'art contemporain en particulier, vers d'autres expériences, notamment avec des rencontres peut-être un petit peu différentes qui poseraient la question du statut de l'œuvre et du statut de la rencontre et de la perception un peu différente. Donc voilà, moi, en tout cas, le point de vue qui fait que, du coup, nous nous sommes intéressés à ce projet, que nous nous sommes rencontrés et qu'il y a eu toutes ces rencontres qui ont été possibles aussi. Et à partir de là, donc, je vais passer le relais donc, à simplement vous faire une présentation en deux temps, présenter les personnes à l'origine de ce projet, et après ça, Niki, tu présenteras peut-être les personnes qui sont ici avec nous. Margherita, donc, qui est critique d'art et commissaire d'exposition indépendante, et qui a réuni un pool d'artistes, je dirais, à rencontrer donc, différents laboratoires. Cette fois-ci, c'est le pendant, donc, Niki Bachile, qui est chercheur au CNRS, donc pour pouvoir présenter ses collaborations.
Alors, bonsoir Patrick, et de voir cette salle, ça me rappelle forcément la performance qui a un lien avec le titre de mon exposition, puisque le titre de l'exposition est « Invisible et insaisissable ». Et au moment où tu viens de le rappeler, où tu nous avais invités, en fait, j'étais moi-même invisible et insaisissable, puisque j'avais envoyé à ma place un remplaçant qui est intervenu pendant la conférence. C'était une performance en fait de R. C'était l'Agence internationale du remplacement. Et c'était cette personne qui avait joué mon rôle pendant la conférence. C'était assez marrant. Donc c'est marrant aussi de revoir l'endroit au bout de tout ce temps. En fait, Invisible et insaisissable, c'est vrai, c'est une très belle aventure. Pour le dire personnellement, puisque tous autour de cette table ce soir font un petit peu une sorte de bilan, moi je pourrais dire que c'était le projet le plus difficile de ma carrière, même si je suis malgré tout encore très très jeune, mais très très difficile et à la fois assez utopique, parce que j'y croyais pas trop à la restitution de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'exposition. Et peut-être ce qui me passionne le plus dans cette exposition, c'est le retour humain que tous les chercheurs et tous les artistes donnent. Et c'est un petit peu un espoir aussi, c'est-à-dire qu'on s'est dit avec Niki, peut-être après cette ouverture des laboratoires, peut-être on peut donner envie justement au futur de pouvoir faire intégrer des artistes au sein des laboratoires scientifiques, comme si c'était presque une sorte d'évidence. Nous, on a lancé la pierre. On a lancé la pierre aussi sur quelque chose qui me semblait très intéressant en tant que critique d'art et commissaire d'exposition, c'était d'explorer des territoires, des matières qui sont, chez les artistes, c'est inaccessible. De faire un déplacement que dans l'histoire de l'art existait déjà. C'est-à-dire que pendant la Renaissance, on avait la bottega, tu sais, ce lieu qui a précédé le laboratoire, qui était beaucoup plus proche du laboratoire scientifique. Dans la bottega, il y avait beaucoup de compétences et tous les artistes et tous ces artisans mettaient ensemble leurs compétences pour pouvoir créer quelque chose, une expérience. Donc on pourrait dire que là, il y a eu un déplacement aussi de la notion d'atelier vers la notion de laboratoire et vers peut-être cette notion assez ancienne qui est celle de bottega. Ce qui est assez étonnant pour ma part, c'est aussi de voir quelque chose qui est au sein de votre expérience actuelle, c'est-à-dire les fers fluides, ces matières-là qui posent des questions de scénographie en termes de muséographie, de présentation, de restitution, de diffusion de l'œuvre qui sont de l'ordre du défi. Parce que les ferrofluides, ces matières que les artistes ont pu manipuler grâce aux scientifiques sont très difficiles à exposer, très difficiles à conserver, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une matière qui change, mais aussi dans le cas du ferrofluide, et ce qui me plaisait autant que, tout simplement, autant que spectateur, de voir que quelque chose qui, à la base, est solide, puisse être fluide. Donc, voilà, l'étonnement même un peu enfantin face à une matière nouvelle. Et je me disais que, justement, le défi avec Nikki, et là je termine et je lui laisse la parole, c'était que finalement, comment on pouvait aujourd'hui, puisqu'on a fait une sorte de recensement de toutes les expositions autour des nanotechnologies, présenter les nanotechnologies, l'invisible et l'insaisissable, sans avoir besoin d'avoir des microscopes dans l'expo. On voulait vraiment restituer, rendre accessible cet invisible, non pas par un outil technologique, et le rendre par le son, par la dimension olfactive et par d'autres choses. C'était aussi ça, ce qu'on voulait rendre au public.
Bonsoir Patrick, bonsoir Poitiers.
Bonsoir Nikki.
Nikki Bachelet, chercheur CNRS, effectivement, coordinateur scientifique du projet Open Lab et donc, de l'exposition Invisible Insaisissable. Avant de rebondir sur ce que Margherita disait, je voudrais présenter à Poitiers trois personnes qui sont avec nous ici ce soir. Donc, ce sont trois chercheurs qui ont participé au projet. Donc, je le rappelle pour le public de Poitiers, c'est un projet qui a impliqué pas moins de 6 laboratoires de recherche en France et pas moins d'une vingtaine de chercheurs au sein des différents laboratoires. Chercheurs CNRS, universitaires et étudiants à différents niveaux. Et donc ce soir, nous avons Xavier Carrier, un laboratoire, donc, qui est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, et il travaille au sein d'une unité, donc le laboratoire de réactivité de surface. Nadine Nassif, qui est chercheur CNRS, qui travaille au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris. Et Thierry Azaïs, maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie et qui travaille aussi au sein du laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris. Donc, si vous pouvez leur poser, donc, ils ont collaboré directement avec certains parmi les artistes de l'exposition, Stéphane Perrault, Eduardo Katz, Raphaël Siboni et Fabien Giraud. Donc, ils sont là pour. Ils viennent de nous raconter leur expérience ici sur Enghien. Et vous êtes libre ensuite de leur poser.
Peut-être juste à titre de rappel, comme tu as dit, combien de laboratoires, combien de scientifiques, combien d'artistes aussi.
Donc on a eu 6 artistes qui ont pris parti au projet de manière active, c'est-à-dire qu'ils ont été dans les laboratoires à plusieurs reprises sur plusieurs mois. Et pour l'exposition Invisible Insaisissable, nous avons invité 3 artistes. Donc Michel Paysan est un duo d'artistes suisses, Gerda Steiner et Jörg Lenzinger, puisque leur travail s'insère dans les thématiques développées dans l'exposition. Et donc juste un mot sur ce sur quoi Margherita a terminé, c'est effectivement on a beaucoup travaillé en ayant fait un peu un état de l'art de cette interaction entre nanosciences et art contemporain. Beaucoup de choses s'arrêtaient à la dimension exploration visible à travers un outil qui était celui de la microscopie, ce qui ne représente qu'une partie des nanosciences. Nous avons voulu plus exploiter et faire émerger les aspects plus liés à la chimie. Je rappelle qu'on est dans l'année internationale de la chimie, donc c'était quelque chose auquel on était né. Et les nanosciences, entre autres, contiennent beaucoup de chimie, beaucoup de physique, de biologie, médecine. C'est un domaine très compliqué et on trouvait un peu réducteur de se limiter qu'aux aspects plus liés à la physique presque. Donc dans l'exposition Invisible Insaisissable, à travers le travail invité de Michel Paysan en lab, on redonne cette dimension d'aller regarder, d'aller travailler autour de la matière en utilisant des techniques de lithographie, par exemple, et ensuite des techniques de microscopie, mais on travaille beaucoup sur la synthèse, l'utilisant de nouveaux matériaux qui souvent qui ne sont pas commercialisés, J'entendais tout à l'heure Patrick qui parlait de l'os. Effectivement, on a intégré deux travaux autour de la recherche qui est menée dans notre laboratoire, dans un des laboratoires autour de l'os. Et donc voilà, on a vraiment fait un effort d'aller vers la recherche en cours actuellement dans des laboratoires français de pointe et reconnus au niveau international, chacun dans leur domaine. Par exemple, en parlant de ferrofluide, nous avons le laboratoire PEXA, qui est une unité qui est reconnue pour tout ce qui est recherche, compréhension et développement des nanoparticules à base d'oxyde de fer, donc des ferrofluides que vous avez ce soir aussi représentés à Poitiers. Merci, j'ai beaucoup parlé.
Merci beaucoup, Niki. Peut-être voir donc avec nos amis scientifiques, peut-être parler de cette expérience et comme nous sommes là aussi pour voir un petit peu cette expérience, ce croisement entre artistes, scientifiques et laboratoires, avoir une impression de scientifiques qui voient des artistes arriver dans les laboratoires, comment est-ce que tout ça se met en place et quel langage parle-t-on dans ces cas-là?
À ce moment-là, on propose de laisser la parole aux scientifiques justement qui ont déjà témoigné de leur rencontre avec les artistes.
Alors, Xavier.
Bonjour. Bon, on a déjà un petit peu discuté ici à Enghien. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette rencontre entre artistes et scientifiques, elle n'a pas été si évidente que ça à mener au départ, en tout cas, et à faire accepter dans les milieux des laboratoires universitaires, hein, où il y avait une sorte d'incrédulité, de questionnement à cette démarche. Des gens qui se demandaient bien quel pouvait être notre rôle là-dedans. Est-ce que c'était notre rôle, nous, de chercheurs et d'universitaires, de travailler avec des artistes? On était un certain nombre à en être convaincus au laboratoire et avoir défendu cette idée qui nous avait été proposée. Et ça a été une rencontre extrêmement enrichissante, et surtout avec un artiste qui est Stéphane Perrault, qui a été un artiste totalement plein de curiosité, plein d'envie de travailler, de mettre une blouse, d'aller dans les laboratoires, de faire des synthèses et d'être un chimiste parmi les chimistes. Et nous, on a essayé de l'aider modestement dans sa démarche artistique en discutant, en échangeant et en construisant le projet ensemble. Mais c'est bien sûr lui qui avait la mainmise et la maîtrise d'œuvre sur son projet. Nous, on a été des aides avec lui, mais ça a été une aide constructive où tout le monde a travaillé ensemble. Et vraiment, un étonnement enfin, moi, mon étonnement, ça a été effectivement cette volonté de l'artiste d'aller véritablement dans l'activité scientifique et de ne pas simplement être en retrait avec une idée que les scientifiques devraient mettre en œuvre. Ça a été vraiment une collaboration. Si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Thierry, je suis sûr qu'il veut rajouter quelque chose.
Bonjour.
Bonjour. Merci pour Bonjour. Cette explication.
Donc moi, j'ai collaboré avec Stéphane Perrault également. Donc je suis d'accord avec Xavier. J'ai eu la chance de travailler avec Stéphane, qui est quelqu'un qui est très curieux et qui n'a pas hésité effectivement à mettre sa blouse et de travailler comme on le fait en laboratoire, c'est-à-dire on peut travailler 10 minutes sur une manip, ne pas y toucher pendant une semaine parce que la synthèse le demande, et revenir sans se plaindre et être actif. J'ai eu une expérience un peu différente avec Fabien et Raphaël, qui ont, eux, eu beaucoup plus, je dirais, de crainte à mettre une blouse. Je pense aussi par peur de... Enfin, ils n'étaient pas très sûrs d'eux et ils pensaient être très ignorants face à la chimie. Et j'ai eu beau leur expliquer que c'était comme de la cuisine, en fait. Ils ont quand même été assez timides pour mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc, c'était une autre expérience. Ceci dit, c'était quand même très intéressant parce que ils ont, comme un chercheur, en fait, ils ont été assez tenaces. Ils avaient un objectif en tête, réaliser une plaque d'os dans des dimensions qui sont celles du BA13, donc 2,50 m, 1,20 m, 1 cm d'épaisseur. Pour le matériau qu'ils voulaient constituer, donc l'os, le projet coûtait 1 500 000 euros. Donc, c'était évidemment impossible à réaliser. Donc, on a dû travailler autour de ça et ça a été un travail de longue haleine qu'on a fait avec Niki. Et ça a été une grande souffrance au début. On a beaucoup plié du côté scientifique, alors qu'on pourrait penser que c'est plutôt l'artiste qui allait plier. En fait, non, c'est les scientifiques qui ont plié face aux artistes. Donc c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui a des ébauches, disons. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu autre chose que je n'ai pas raconté aux gens qui sont dans cette salle, pour ne pas les ennuyer. En fait, ce que je voulais dire, ce qui était intéressant autour de ce projet, c'est qu'on voulait refaire de l'os synthétique, mais évidemment de l'os, disons, vivant. Et ça a provoqué beaucoup de problèmes, en fait, beaucoup de bruit. Les gens ont eu peur. Donc au début, il y a eu beaucoup d'agressivité face à ce projet, notamment celui de Stéphane. Et c'était assez intéressant de voir la crainte des gens à se retrouver face à un os dit vivant, mais fait au laboratoire. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça. Et il a pas cédé, il est resté calme, il a expliqué tranquillement que même si on reprenait des constituants du vivant... on ne blasphémait pas et voilà, ça restait très éthique. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ces explications. Je vais voir si à Poitiers on a des questions. Ouais, je pense qu'on en a une ici. Non, Jean-Sébastien, une petite question. Selma, non? Ou dans le public? Ah, j'ai Yves qui va poser une question.
Bonsoir, je suis Yves Sénatiempo. Je salue Niki et Margherita. Je vous rappelle que vous aviez fait une des premières webconférences à l'Espace Mendès France dans des conditions assez acrobatiques. En tout cas, je vous remercie de vous être plié à cette expérience, vous êtes habitué. C'est une question et peut-être une demande aussi. En dehors d'être directeur scientifique de l'Espace Mendès France, je suis aujourd'hui professeur émérite, ça c'est mon âge, et je suis sorti de la carrière il y a seulement 15 jours, donc vous voyez, c'est encore frais. Et je souhaiterais que votre expérience soit connue au sein de la communauté scientifique. Alors évidemment, on peut dire que l'exposition va plaider pour vous, mais est-ce que vous auriez la possibilité, alors je ne sais pas si c'est rédiger une publication au sens strict du terme, mais est-ce que vous auriez la possibilité d'avoir un moyen de communication que l'on pourrait diffuser? Un, vers la communauté scientifique, et deux, vers les étudiants. Alors ici, on a Jean-Sébastien qui a, lui, une activité tout au long de l'année vis-à-vis des étudiants, mais personnellement, à Poitiers, ça fait 23 ans, 24 ans que je suis à Poitiers, je n'ai jamais vu ce type d'expérience. On a eu un cas de figure l'an dernier où on a eu une collaboration avec l'espace RURART et un des laboratoires dans l'ensemble que je dirigeais, mais c'était... vraiment insignifiant par rapport à ce que vous avez fait. Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez me dire et qu'est-ce que vous pourriez sortir comme communication ou publication à partir de votre expérience?
Il existe le catalogue de l'exposition a été publié, qu'on a fait diffuser auprès en tout cas de nos tutelles et nos instances, c'est-à-dire l'université, le CNRS, le monsieur Corvol, l'administrateur du Collège de France. Donc, disons, nos instances propres sont au courant. Le département, le bureau de communication du CNRS en est au courant. On en a distribué un certain nombre de copies. Ensuite, de ce point de vue, je sais, bon, c'est plus vraiment à nous de diffuser. On peut pas aller, en tant que chercheur et coordinateur du plan, on peut pas aller plus loin. Maintenant, si on part d'une publication scientifique, ça, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas si c'était ça la question.
C'était plus un témoignage auprès de la communauté scientifique, de manière, je veux dire, à avoir un aspect d'accord. incitatif. Je ne pensais pas forcément à une communication ou à une publication scientifique, quoique ça mériterait de l'être. Ceci dit, pour trouver le journal qui va publier ça, ça risque d'être un peu difficile.
Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas si... on a récemment, j'ai creusé un article sur une revue Langmuir, et j'ai trouvé, bon, il y avait une étude sur des détergents, et donc les auteurs utilisaient de la microscopie électronique en transmission. Et l'article se terminait avec une séquence de vers de Alexander Pope. Je trouvais ça assez édifiant comme exemple. Donc Langmuir publie des vers, c'est... Ils acceptent. D'autres journaux, il y a eu un cas de figure il y a quelques années où un artiste a passé un an à l'MIT à Cambridge, aux États-Unis, et ses recherches avaient été publiées par, je ne sais plus exactement, autour des aérogels. Il y avait une publication sur une revue spécialisée mais scientifique. Il est clair que dans toutes les différentes expériences qu'on a eues ici, il y a au moins un travail qui, à mon avis, publiable. Ça, je ne sais pas, c'est Nadine qui avait en partie collaboré à ce travail. D'un point de vue scientifique, bon, il y avait, elle avait toute une... elle pourra peut-être en parler, mais on a eu un diatribe. En tout cas, il y avait un enjeu, ou pas d'enjeu scientifique, mais en tout cas, il serait peut-être brevetable sous certains points de vue, ce serait peut-être intéressant. Donc ça, c'est un peu l'état actuel des choses. Après, une publication de plus large, avec un point de vue plus large, ça, pourquoi pas. Il faut voir qui est-ce qui aura envie de publier, justement, s'il y aurait des propositions, pourquoi pas.
Oui, l'espace Mendès France, dit Yves. Là, j'ai une petite question de Jean-Sébastien Filol qui va...
Qui est en fait une question et un commentaire de manière générale. C'est vrai que du point de vue du chercheur, notre métier, c'est de créer de la connaissance, et c'est toujours un petit peu difficile de justifier qu'on apporte un soutien à un artiste, puisque ce n'est pas exactement la connaissance habituelle qui est reconnue par le milieu. Par contre, on est souvent aussi enseignant-chercheur, et je pense que l'art et la présence de l'artiste au niveau de l'enseignement peut être quelque chose qui peut être très productif, qui peut être compris aussi par nos tutelles, parce que simplement, pour nos étudiants, c'est un plus incommensurable de voir que leur travail peut être transformé en quelque chose qui peut être exposé, quelque chose qui peut avoir un impact vers l'extérieur. Donc, je pense aussi qu'il faut... Il y a l'aspect, c'est très bien d'introduire les artistes du côté recherche, mais c'est aussi très très important de les introduire du point de vue enseignement, puisque ça justifie la justification de leur présence est quasiment directe. Et ensuite, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel pour nos étudiants de voir un travail artistique dans un domaine scientifique où justement l'art n'est quand même pas la chose la plus développée.
Sur ce point, alors moi je ne suis pas enseignant-chercheur. Mais on a dans la salle Xavier qui est professeur et Thierry qui est aussi enseignant-chercheur. Ils ont peut-être un avis sur ce point.
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée à laquelle je n'avais pas forcément songé. Mais effectivement, on peut envisager tout à fait, j'imagine bien, comme on a travaillé avec Stéphane Perrault sur des nanoparticules et la couleur des nanoparticules qui évoluait en fonction de la taille de ces nanoparticules, on peut envisager des très bien un cours de 2 heures avec 1 heure sur les nanoparticules et 1 heure après d'intervention de l'artiste qui essaye de traduire ça pour les étudiants. Et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui pourrait tout à fait s'inscrire dans le cadre d'enseignement un peu plus spécialisé au niveau du master, peut-être. Et oui, je pense que c'est une idée tout à fait intéressante à conserver.
Thierry, je ne sais pas si...
Oui, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Parfois, on a du mal à capter l'attention de nos étudiants. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. Là, ça serait une bonne occasion, effectivement, de mettre en place ce type d'intervention de manière un peu à aiguiser leur curiosité.
Alors, si je peux me permettre, vaut mieux les étudiants de L, c'est encore mieux que les étudiants de master. Parce que les étudiants de master, ils ont la technicité, mais les étudiants de L, ils ont souvent le manque de... Ils se posent la question de qu'est-ce qu'ils font à l'université. Si vous leur donnez une bonne raison de rester à l'université, on en fait des choses assez fantastiques. Donc, deuxième commentaire, excusez-moi.
Bonjour, Salma Lepard. Moi, je voulais revenir sur la difficulté de monter cette exposition et savoir comment ça s'était passé un petit peu à partir du moment où l'idée de l'exposition avait été mise en place et le travail entre artistes-chercheurs a débuté, en fait. S'il y avait eu beaucoup de temps écoulé entre les deux, si le choix des artistes et le choix des chercheurs avait été compliqué, s'il y a eu beaucoup de demandes, enfin voilà.
Alors en fait, le choix des artistes a été un petit peu, voilà, comme toutes sortes d'expositions, c'est-à-dire que j'ai fait un choix moi-même qui répondait à ma volonté de vouloir explorer toutes les dimensions des nanotechnologies, en essayant de mettre pas en retrait, mais de privilégier non pas celle du microscope ou de l'aspect visuel. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce soir, par ailleurs, Lorenzo Pagliai, qui est à la fois compositeur, pianiste, et aussi qui vient d'exécuter une performance et qui pourra très bien vous expliquer son installation au sein de l'exposition Invisible et Insaisissable, son installation qui s'appelle Les Invisibles. Lorenzo a à la fois aussi un travail de chercheur par ailleurs, puisqu'il travaille à l'IRCAM. Donc l'idée, c'était véritablement, pour revenir sur cette question, le choix des artistes s'est fait de façon pluridisciplinaire. D'autre part, c'est vrai que c'est un projet qui est né il y a un an et demi et que nous n'avons pas souhaité, autant que coordinateur du projet, d'imposer la présence de l'artiste. C'était vraiment, le projet du départ s'appelait Open Lab, c'était vraiment une ouverture. Donc c'est vrai que j'ai choisi les artistes, j'ai choisi des artistes aussi qui avaient déjà une expérience ou une sensibilité scientifique, mais il est vrai aussi que je n'ai pas exclu, et Niki était d'accord avec moi, qu'il puisse y avoir des échecs, puisque l'échec fait partie, on l'a dit au départ de cette conférence, aussi bien de l'expérience scientifique dans un laboratoire et aussi bien des explorations artistiques dans l'histoire de l'art. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement choisir des artistes. Niki a choisi des laboratoires et à un moment donné, ça s'est fait tout à fait de façon humaine. On a eu beaucoup de... Ça n'a pas été du tout facile, c'est-à-dire qu'on a dû faire un gros travail de sensibilisation, un gros travail de conférences, tout simplement, au sein du Collège de France. On réunissait les scientifiques, mais sans imposer, sans dire... Au début, on s'est même posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'artiste et on leur affecte un laboratoire. En fait, on s'est dit non, on les laisse juste rencontrer. Et après, on a eu l'idée, peut-être ça serait bien qu'on prenne des cafés, qu'on mange tous ensemble, qu'on puisse se croiser. Et bon, pour la blague, hein, moi j'ai eu même l'idée à la fin que tout puisse se terminer avec un match de foot entre scientifiques et chercheurs, scientifiques et artistes. Mais bon, ça s'est pas fait. Bon, c'était un peu la blague, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout s'est fait de façon très humaine. Il y a eu des échecs aussi, hein, mais bon.
Plus qu'humaine, je dirais presque très naïve. Mais Nadine, Thierry, Xavier, ils pourront témoigner. Il n'y avait pas vraiment... C'est peut-être une faiblesse au départ. Après, ça s'est révélé peut-être une bonne carte à jouer. Il n'y a pas eu un projet en termes de mise en relation spécifique de la part de même Margarita. On s'est dit... Et d'ailleurs, c'était derrière suggestion de Catherine Louis, On avait un peu discuté au départ, qui est une collègue de Xavier, qui a aussi participé au projet, de dire il faut qu'on rencontre les artistes, il faut qu'on sache ce qu'ils font, il faut qu'eux ils sachent ce qu'on fait. Et après, humainement, on va voir un peu comment ça fait. Et je trouve qu'à la fin, les différents binômes, bon, c'est plus que des binômes parce que certains artistes ont collaboré avec plusieurs laboratoires et vice-versa. Et les rapprochements ont été même assez logiques dans les manières de travailler des uns et des autres.
Et l'idée du départ, c'était vraiment pour nous de ne pas arriver que l'artiste, quand j'ai choisi les artistes, je leur ai dit voilà l'idée du projet. Vous aurez accès à des matières dont vous n'avez pas l'habitude, avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler. Vous allez collaborer avec des scientifiques, mais ne venez pas avec un projet que vous avez derrière la tête, s'il vous plaît. Essayez de faire naître ce projet avec le scientifique. Et on avait même un rêve qui ne s'est malheureusement pas réalisé, et je le remets sur table parce que c'était vraiment mon idée de départ, que l'artiste et le scientifique puissent signer, co-signer cette expérience. Et je ne parle pas ici d'œuvres d'art, mais véritablement d'expérience, parce que je trouvais que c'était intéressant finalement que les deux puissent témoigner de cette créativité, puisque au sein de ces productions d'expériences, puisqu'il y en a eu plusieurs de productions, je trouve que parfois le scientifique, je me suis retrouvée face à des scientifiques très créatifs, hein, face à des contraintes qui ont été résolues de façon très très créative.
Absolument. Il y a eu des développements, je pense, Nadine est là et je pense à une de ses collaborations, c'est la contrainte d'1 500 000 euros, c'était quand même une bonne contrainte. Mais elle a été très forte pour ça, c'était son domaine de recherche, elle a trouvé une solution très fine à la problématique, peu coûteuse, dont on ne dévoilera pas le secret. Mais c'était, il y a eu des... C'était, bon, c'est en fonction du type de collaboration, mais il y a eu des démarches derrière qui... Bon, après, on a fait le choix de ne pas les montrer dans l'exposition. Et ça, c'est un choix qu'on a voulu garder avec Margherita. Mais effectivement, c'était... certains des travaux ont été assez...
Et pour revenir à cette idée de naïf, en fait, C'est vrai que ça a été naïf, mais derrière la tête, on avait vraiment cette envie d'aboutir à une restitution, à une exposition. Dès le départ, on parlait d'un documentaire, dès le départ, on parlait d'un documentaire qui puisse retracer tous les moments. Et ça a été très, très difficile parce qu'encore une fois, on avait cette idée, mais ça a été difficile de la mettre en place. Donc, on a documenté aussi bien qu'on a pu. Parce que c'était difficile aussi qu'un documentaire puisse être fait au sein de cette institution qui est le CNRS. Et c'est là où on avait aussi l'envie d'ouvrir les laboratoires et aussi de faire un catalogue et l'exposition. Donc, au départ, on avait des idées très claires de ce qu'on voulait faire. Mais c'est vrai aussi que c'est là où je reviens à cette naïveté, qu'on a été face quand même à... cette grande institution qui est le CNRS, qui est un véritable... Ben moi, je me permets de le dire, parce que je suis le côté artistique qui a failli, à un moment donné, aussi arrêter le projet pour des raisons que je trouvais un peu exagérées. Mais c'est vrai que c'était très, 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 très naïf de notre part, mais... Voilà, pourquoi pas l'artiste, je ne sais pas qui disait, je crois que Picasso disait que voilà, justement, l'important c'est de rester un petit peu naïf et de rester un petit peu comme un enfant, quoi. C'était ça peut-être la force du projet.
Juste pour terminer, bon, il faut dire que le CNRS nous a financé une partie du projet, il faut qu'on le rappelle, mais c'est l'Institut de chimie du CNRS qui nous a financé une partie du projet. Après, la partie plus... administration, bon, ça c'est autre chose, mais bon, je pense que nous, Patrick, si on va, oui. On a beaucoup parlé, on vous renvoie la parole pour nous parler un peu.
Écoutez,
de votre soirée.
Nous, c'était intéressant parce que, comme j'ai expliqué, cette expérience est un peu pour nous un peu fer de lance. Hein. Là, on a un éclairage sur les difficultés et sur les réalités de terrain. Je vais voir dans le public, est-ce que parmi vous, il y a des questions par rapport à cette expérience un peu étonnante sur le rapport à Arrescience? Non, je me retourne vers... Oui, Yves veut encore reprendre la parole.
En fait, je ne tiens pas à monopoliser la parole, mais quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout. Moi, je vous propose vraiment de réfléchir à l'idée suivante. À l'Espace Manas France, on a une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Atlantiques, où on sort des ouvrages très variés, depuis des ouvrages très sérieux d'odontologie à des ouvrages peut-être un peu moins sérieux. Néanmoins, là, il y a peut-être à creuser une idée. Je ne dis pas qu'il faut se ruer là-dessus. Mais en fonction de ce qu'a dit notamment Margherita tout à l'heure, il me semble qu'il y a matière à écrire quelque chose. Et Margherita parlait de co-signature, d'une œuvre. Là, ça pourrait être co-signature d'un article, justement, des duos qui ont travaillé sur les différents projets, avec peut-être quelques illustrations. Et j'imagine, moi, volontiers, que là, on aurait... un fascicule, voire un livre un peu plus important qu'on pourrait proposer par exemple aux universités qui pourraient faire des achats en nombre et s'engager à les diffuser alors auprès de leur laboratoire, voire des étudiants. Donc en plus, avec là c'est ma casquette de chef d'entreprise qui parle, on aurait même un marché derrière pour pouvoir diffuser, puisque un des problèmes de l'édition, c'est aussi de pouvoir diffuser les bouquins qui sortent. Donc je sème cette idée-là. Si cette rencontre de ce soir sert à ça, j'en serais ravi. En tout cas, moi, je suis prêt à porter l'idée auprès des éditions Atlantiques et ici dans la maison. Je vous laisse réfléchir à la question.
Merci, c'est une très bonne idée. Alors moi, je sème une autre idée parce que je voulais également saluer, en fait, dans toute cette aventure, il ne faut surtout pas oublier cette institution, et là je ne fais pas ma langue de bois parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais je c'est vraiment ce que je sens et ce que je ressens face au Centre des Arts, qui a pris ce risque en fait d'accueillir cette exposition qui a été une exposition difficile à prendre en charge, une exposition qui est difficile à entretenir en termes de régie au quotidien, puisque voilà, les œuvres sont exploitent des matières qui s'évaporent, qui changent. C'est l'idée du vivant, c'est en permanence évolution, en permanente évolution. Donc c'est là où aujourd'hui je dis encore une fois, je salue encore une fois l'audace et je dirais aussi la confiance du Centre des Arts et surtout cette équipe qui a été très très réactive. Et j'ai eu, si vous voulez, un retour qui m'a presque menée aux larmes. C'est en fait l'ex-directrice artistique du laboratoire, qui est le lieu qui est reconnu pour être art et science, qui a fait le tour ici au Centre des Arts un dimanche, est venue faire un tour dans l'exposition et qui a dit « Mais Margherita, mais vous avez fait un travail, le Centre des Arts qui, par ailleurs, hein, c'est une critique qui ne l'est pas, elle a dit, c'est pas un lieu d'exposition, vous avez réussi à faire une scénographie qui est incroyable et exposer des œuvres incroyables. Donc ça m'a vraiment touchée, parce que voilà, le laboratoire, c'est le lieu qui a été qui est dans tous les journaux, c'est le lieu qui est lié à l'art et science, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc je salue le Centre des Arts, mais à la fois je lance, comme vous avez lancé une idée, je lance aussi une idée à Poitiers, pourquoi pas organiser un quart et amener tout ce public et ne pas laisser invisible et insaisissable cette exposition, mais peut-être la rendre visible à ces gens de Poitiers, puisqu'elle est là jusqu'au 16 décembre. Donc ça serait bien que Poitiers vienne nous voir, pas seulement par Skype. Et
comme dit Yves, pourquoi pas avoir cette exposition un jour à Poitiers?
Ah ben voilà,
tout simplement.
Hein, ça c'est, je te lance l'idée, mais,
voilà.
mais mettez en place ça, c'est avec plaisir qu'on
je
pourra...
Je pense que notre lien ne se limite pas à Sky, je pense qu'on a commencé une aventure il y a un an, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir un public commencer à découvrir ce qu'est le nano-art, comme on dit, hein, c'est une problématique réellement nouvelle, et d'avoir aussi des liens qui s'établissent entre artistes et scientifiques dans ce paradigme un petit peu complexe art et science, sur lequel on échange maintenant depuis quelques mois. On va peut-être couper la transmission, à moins qu'il y ait, je répète, des questions dans la salle. Non ? Ah, il y a une question encore, ça sera la dernière.
Peut-être juste une question. Donc, Grégory Diguet de Bipolar, donc, qui est un bureau de production et de diffusion. J'accompagne Selma dans le développement de ses projets. Donc, Selma Leparc expose ici son projet Esquive. Et j'avais une question par rapport que je pose au commissaire de l'exposition. C'était par rapport au choix qui avait été fait dans la présentation des œuvres. Est-ce que vous avez choisi d'être très explicite sur les technologies qui avaient été mises en œuvre, sur les domaines de recherche auxquels les artistes avaient fait appel, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste assez invisible pour le public et insaisissable?
Alors, en fait, moi, je suis partie, moi, personnellement, hein, parce que là, en fait, on a essayé d'être assez, présent dans la partie scientifique et artiste, mais il est vrai que moi, je suis partie d'un constat. Je ne voulais pas faire la Cité des sciences au Centre des arts. Je n'aime pas du tout les approches pédagogiques, trop pédagogiques. Je trouve que le public, à n'importe quelle œuvre, du Louvre jusqu'au Centre des arts contemporains à Taipei, doit faire un effort. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas mener trop d'informations au public. Il faut aussi laisser la liberté au public de rêver, de changer de regard, de s'allonger. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux visiteurs, de pouvoir s'allonger face à une œuvre, puisqu'ils ont toujours cette verticalité qui ne leur permet pas de se détendre face à une œuvre d'art. Voilà, donc c'est vrai qu'à la fin, on a trouvé un bon compromis avec Niki, et que pour moi, les nanotechnologies, puisque peut-être Patrick le sait très bien, moi j'ai travaillé très longtemps avec les jeux vidéo, avec ce qu'on appelle l'art numérique, cette définition que je déteste. Et les nanotechnologies, c'est un outil de plus, c'est une matière de plus pour les artistes. Et en fait, il ne faut surtout pas s'arrêter à l'outil. C'est que ce qu'on a là, ce que les scientifiques et aussi bien les artistes peuvent nous rendre, c'est un rendez-vous inattendu et surtout un voyage, quelque chose de poétique, quelque chose de lié à la rêverie. Voilà.
Simplement aussi pour pouvoir compléter juste un petit peu la réponse de Margarita. Moi, c'est plus au niveau de l'institution, plus au niveau donc du Centre des Arts. Donc l'idée, c'est, et vraiment à l'initiative et de Margarita et de Niki, nous, ça a été effectivement d'avoir à communiquer de façon complètement équivalente, à la fois sur l'aspect scientifique que les artistes, au niveau des laboratoires et au niveau de la parole des artistes. Et pour rebondir aussi sur la question de l'édition, l'idée a été d'établir, en fait, et c'est ce qui a constitué un petit peu la structure et l'ossature de cette édition qui est paru finalement à l'occasion de cette expo, ça a été d'avoir à proposer un questionnaire, des questions très simples, 5 questions, mais qui ont été les mêmes posées donc et aux artistes et aux scientifiques, pour pouvoir voir un petit peu leur point de vue et leur approche croisée au détour de chacune des propositions qui jalonnent cette expo. Et donc l'idée de les mettre sur une même échelle et sur le mur de présentation et d'introduction de l'exposition, il y a le nom des artistes et il y a le nom des laboratoires, puisqu'au sein de chacun des laboratoires, il y a des chercheurs. Donc là, par contre, voilà, on a mis des en tête, mais l'idée, en tout cas, est d'avoir vraiment à poser ces structures-là et ces jalons-là.
Et d'ailleurs, vous le voyez dans le titre de l'exposition, j'ai souhaité vraiment un titre très, très poétique. Parce que nanoscience ou art numérique, ça veut dire et tout et rien dire. Je trouvais que invisible et insaisissable laissait beaucoup plus avec la petite phrase après, quand les nanosciences rencontrent l'art contemporain. Mais invisible et insaisissable, c'était vraiment une ouverture vers le rêve et vers quelque chose d'inattendu.
Merci. Ben, je pense que le message est passé. Il faut repoétiser le monde. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Je vous remercie tous au titre des personnes qui sont réunies ce soir à Poitiers. Merci beaucoup pour cette intervention, hein, qui, je pense, a éclairé sur cette expérimentation. Je remercie également en particulier Emmanuel parce qu'on a un petit peu souffert aussi pour mettre en place cette opération de transmission, mais finalement ça s'est pas trop mal passé. Et puis je dis à très bientôt à Niki parce que je sais qu'on va se voir très prochainement. Et puis au plaisir de vous revoir. Je parle donc au titre des poids de vin présents dans la salle ce soir. À très bientôt, merci.
Merci beaucoup à mon tour, simplement de vous remercier et de te remercier aussi. Merci toi et ton équipe. À bientôt, bonne soirée.
Ciao Patrick.
Au revoir.
Ciao Patrick.
Donc maintenant, on va revenir dans la vraie vie. Moi, ce que je propose, alors, qu'on fasse intervenir, parce que Selma n'a pas beaucoup parlé, et puis je sais que Jean-Sébastien, parce que comme on a parlé de ferrofluide, il nous a ramené, comme on a parlé de chimie magique, alors là, on peut le faire sur une forme aussi un petit peu rigolote, magique. Alors, peut-être d'abord passer la parole à Selma, pour que après cette expérience, Selma, cette expérience parisienne, elle nous parle de comment ça s'est passé à Montpellier, puisque elle, finalement, a un parcours assez similaire à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire une artiste qui a travaillé avec des chercheurs dans des laboratoires. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage en 5-6 minutes ? 7 ?
Bah oui. En fait, moi, j'ai eu pas mal de chance, finalement, je me rends compte dans mon parcours quand j'entends tous les témoignages, c'est que ma première expérience avec les nanotechnologies, c'était en 2007, j'étais encore étudiante à Strasbourg, et c'est les chercheurs qui sont venus directement aux arts décoratifs de Strasbourg nous proposer un projet. Donc j'ai fait partie de ce projet-là, c'était du nanomarquage, et à l'époque, c'est vrai que je ne me rendais pas vraiment compte, je me rendais compte que je faisais un truc que j'aurais probablement jamais l'occasion de refaire un jour, mais je ne me rendais pas vraiment compte de ce qu'étaient les nanotechnologies et de ce que ça pouvait apporter à mon travail. Et ensuite, à cette époque-là, je travaillais beaucoup sur les matériaux élastiques, fluides et étirables, et les choses comme ça. Et je ne pouvais pas me passer de mon intervention sur ces matériaux. J'étais obligée d'être là pour les faire se mouvoir et pour leur donner une autre forme. En fait, il fallait que ma main intervienne sur le matériau. Donc j'ai cherché un matériau qui me permettrait de pouvoir créer une pièce qui se déplacerait sans mon intervention. Et au fur et à mesure de mes recherches sur Internet, en fait, je suis tombée sur le ferrofluide. Donc du coup, j'ai commencé à créer une pièce, à imaginer une pièce une œuvre d'art, alors ça a pris toutes les formes, et puis après ça s'est simplifié, ça s'est recompliqué, ça s'est resimplifié. Et à ce moment-là, j'ai créé Mercure Noir. À Kaonga, j'étais en résidence à Kaonga, et il y a eu une exposition juste à la fin de ma résidence, où j'ai rencontré Jean-Sébastien, qui est venu à l'exposition et qui m'a proposé de suivre ses cours de chimie magique. Donc quelques mois après, je pense, c'était ça, j'ai suivi pendant une vingtaine de cours. On a fait des phosphorescents, des fluorescents, des ferrofluides, des supraconducteurs. Enfin, donc voilà, donc c'était mon premier pied, le premier pied que je mettais dans l'université de sciences de Montpellier. Et parallèlement à ça, l'université m'a proposé de créer une nouvelle pièce. Donc du coup, l'année d'après, en fait, ils ont le pôle culture de l'université a fait une réunion, a fait un appel à chercheurs, et certains chercheurs sont venus me voir pour que je leur explique mon projet et pour qu'ils puissent m'expliquer eux ce qu'ils faisaient. Donc j'ai visité leur laboratoire. Ça s'est fait en un temps assez long quand même, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à visiter, pas mal de choses à voir et pas mal de choses à appréhender. Et là, je suis repartie sur une nouvelle pièce qui est esquive d'ailleurs, toujours avec les ferrofluides. Et donc, en fait, je me rends compte que j'ai pas mal de chance parce que les chercheurs sont toujours plus ou moins venus me voir. Donc, ce qui, à mon avis, facilite vraiment grandement le travail, parce que même s'ils sont venus me voir, finalement, ça a pris énormément de temps. Et je suis restée 6 mois à l'université pour créer la pièce. Et au bout de 3 mois, j'ai rencontré encore des nouveaux chercheurs. Enfin, il y a des chercheurs que j'avais rencontrés au début qui étaient tellement occupés que je les ai revus au bout de 3 mois aussi, et des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est quand même un travail qui prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire des rencontres, mais qui est assez passionnant. Donc, voilà.
Il y a une petite chose quand même que Selma dit pas, c'est que c'est ce qu'elle fait, c'est des œuvres qui sont quand même relativement compliquées parce qu'il y a énormément de matériaux, il y a de l'automatisme, il y a l'électronique, et que elle a un peu appris quand même à tout faire elle-même. Hein. C'est pas des gens qui sont venus lui ont donné ponctuellement des petits coups de main, mais c'est elle qui a tout appris pour créer l'œuvre. Et c'est des œuvres quand même qui sont relativement techniques, donc c'est quand même une capacité d'apprentissage assez phénoménale pour quelqu'un qui n'était pas du tout de la partie initialement.
On peut confirmer, si on l'a vu monter son œuvre, c'est assez impressionnant.
Elle n'a pas le petit technicien caché, c'est elle qui fait tout.
Elle manie autant la scie circulaire que les branchements sur Arduino. Donc c'est assez remarquable, et puis voilà, je pense qu'elle a beaucoup appris sur les ferrofluides. Donc j'arrive aux ferrofluides justement. Parce qu'on a parlé de ces choses-là. Bon, vous avez vu un petit peu tout en avant-première. Moi, je propose peut-être qu'on finisse de façon... Margarita n'est plus là. On va parler un peu de pédagogie, de science. Finir par une petite présentation par Jean-Sébastien. On va repasser ça en caméra. Et puis, je vais le laisser vous montrer les ferrofluides en action.
Alors, je vais juste un petit peu vous reparler de ce qu'est un ferrofluide. Un ferrofluide, c'est quelque chose qui est complètement non naturel. Pourquoi ? Parce que tous les aimants qu'on connaît sont tous solides. Vous n'avez pas d'aimant qui est liquide. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un aimant, vous le chauffez, avant qu'il fonde, il aura perdu son aimantation. Donc, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on peut faire quand même des aimants liquides ? Alors, on ne peut pas les faire directement, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose qui ressemble le plus possible à un aimant liquide ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est mis en veille, ça fait trop longtemps. Donc, ça va revenir tout de suite. Personne ne regarde mon mot de passe quand je vais rentrer. Ouais. Nanochimie magique. Sinon, c'est pas grave, je vais continuer. On va terminer à l'ancienne, sinon. On va terminer à l'ancienne, c'est pas grave. Petit problème technique. Hein.
Pour faire une micro, vous voyez de la poussière d'or.
Alors, pour dire la vérité, il y a la légende et après il y a la réalité. La légende. La légende date des Romains quand ils fabriquaient le verre rose, qui est à peu près un process de synthèse pas très très éloigné. La légende dit que c'est quelqu'un qui a acheté une pièce d'or dans la coulée d'or. Et si vous faites ça, ça ne marchera jamais. En fait, pour pouvoir le faire, il faut partir du chlorure d'or. Donc, le chlorure d'or, vous l'avez simplement par attaque de l'or par l'eau, un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique. Donc, c'est le seul acide qui est capable d'attaquer l'or, et vous obtenez une espèce de poudre qui est le chlorure d'or, et que vous insérez dans vos vitraux, et vous mettez un petit peu d'étain dans mes souvenirs, qui va permettre de réduire l'or, de faire apparaître les petites particules d'or métallique. Donc ça, c'est une des méthodes...
C'est une des méthodes usuelles pour le faire. Donc, pour faire les nanoparticules, on ne peut jamais partir d'un morceau d'or massif, parce que l'or massif va toujours rester massif. Alors.
Il doit rebooter, là.
Ouais, on va le rebooter.
Il faut que tu enlèves la clé. Il va rebooter sur la clé.
Alors.
Là, c'était bien parti pour toi.
Ouais, ça va partir. Désolé pour ce petit problème technique. Les Parisiens adorent parler, c'est pour ça. Donc, Mais Montpellier adore encore plus parler, donc vous n'êtes pas sorti. Bon, j'espère que vous ne prévoyez pas de sortir avant minuit, 2h du matin. Bon, personne ne regarde mon mot de passe. Ah bah ça va, là. Donc, pendant que ça redémarre, vous avez d'autres questions sur le particulier, avant que j'aborde le mystère des ferrofluides. Comment transformer quelque chose qui ne peut pas être liquide en quelque chose de liquide. Bon, comment est-ce qu'on fait habituellement
Qu'est-ce qui se passe si vous mettez un solide dans un liquide habituellement, un morceau, un peu de sable dans un liquide? Ça coule au fond. Hein. Donc, vous avez peut-être remarqué, si vous mettez des gros grains de sable, ils coulent plus rapidement au fond que si vous mettez des petits grains de sable. Donc, tout le but...
Et voilà. Alors, on s'est arrêté là.
Donc, voilà ce qui se passe, c'est que si vous mettez de la poussière ou des particules solides très fines dans un liquide, ça coule au fond. L'avantage, c'est que plus ça va être petit, plus ça va mettre de temps à couler. Donc, ce qu'on peut se dire, on va utiliser des toutes petites particules magnétiques. Alors, pour ça, on va utiliser des petites particules de magnétite. Alors, la magnétite, on la connaît depuis très longtemps, c'est ce qu'il y a dans les boussoles pour faire l'aimantation. C'est simplement un oxyde de fer magnétique. Et donc, on a pris justement... C'est toute petite particule, donc vous voyez l'échelle, ça c'est 100 nanomètres, donc c'est vraiment tout petit par rapport, ça fait à peu près 20 nanomètres. Donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Alors initialement ça pourrait être une super bonne idée, mais le problème c'est si vous faites ça, effectivement ça va rester en suspension, mais au bout d'un moment, ça va se faire une pâte au fond. Pourquoi ? Parce que vous avez des petits aimants. Vous avez essayé de jouer avec plusieurs aimants les uns à côté des autres, ils viennent tous se coller les uns aux autres. Donc ça c'est le gros problème quand vous voulez faire des ferrofluides, c'est qu'initialement... Ils se collent tous et ils font une grosse masse solide au fond. Donc, toute l'astuce du ferrofluide, c'est de faire une capsule autour de vos petits aimants pour les empêcher de s'approcher trop près. Et en les empêchant de s'approcher trop près, on les empêche de venir se coller les uns aux autres. Et on fait ça simplement en mettant des grosses molécules autour. Vous avez votre particule aimantée qui est ici, qui est la magnétite. Et dessus, vous mettez une grosse molécule qui va justement empêcher... plein de grosses molécules autour qui vont empêcher les molécules de venir s'agglomérer. Et comme elles ne peuvent pas s'agglomérer, il va rester en solution. Vous avez aussi choisi vos molécules de telle manière à ce que les molécules autour, elles attirent énormément le liquide dans lequel vous le mettez. Par exemple, ça peut être de l'eau. Et à ce moment-là, vous allez accrocher le liquide à votre nanoparticule. Et en faisant ça, vous obtenez le ferrofluide. Alors, j'en ai amené qu'on a synthétisé... que mes étudiants ont synthétisé au laboratoire. Je vous le montre comme vous êtes pas nombreux, vous voyez. Simplement un liquide huileux. Alors la première chose qu'on peut voir éventuellement sur un ferrofluide, c'est qu'habituellement, ce que je fais toujours quand je vais dans les écoles, c'est qu'on vous a toujours appris qu'un fluide, ça descend toujours vers le bas. Vous ne connaissez pas le fluide qui monte. Cela, si. Donc là, on arrive à faire couler le liquide vers le haut. Justement, grâce à son aimantation. Là, j'ai simplement... En général, quand je le fais au petit, j'amène ma super baguette magique avec un super aimant caché à l'intérieur.
Ça marche pas, là.
Voilà, vous êtes grand. Donc, si vous regardez, vous voyez le liquide qui monte tout simplement. On va essayer peut-être de le montrer à la caméra. on le voit qui monte. Et on a aussi un phénomène qui est le phénomène hérisson qui peut se produire. C'est que si j'approche mon aimant, en fait, j'ai des piquants qui arrivent. C'est les mêmes piquants que vous avez vus dans l'œuf de Selma tout à l'heure. Et en fait, ils arrivent en haut et en bas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, pour comprendre d'où ça vient, là, j'ai pris simplement mes nanoparticules, mais cette fois-ci sans le liquide autour. Donc, vous avez ça, c'est exactement les mêmes nanoparticules. Et en fait, ce qui crée le petit hérisson, c'est simplement les nanoparticules qui se mettent les unes à côté des autres. Alors, si vous faites exactement le limite de fer, vous n'aurez pas exactement cet effet-là. C'est un effet beaucoup plus fin à cause de la taille de vos particules, puisqu'elles sont quasiment... La limite de fer, c'est 10 microns. Là, ces particules, elles sont quasiment 1000 fois plus petites. Et vous avez... Et l'avantage, c'est que si vous mettez un liquide autour, vous allez réussir à l'entraîner. Et donc ça, ce que vous voyez, c'est simplement les lignes de champ d'aimant. Et vous avez et les piquants, c'est simplement une instabilité qui est liée aux lignes de champ d'aimant. Donc d'où ces petites propriétés. Et en fait, à quoi...
Il est malade.
Effectivement, il est malade. Bon, de manière... Il doit y avoir un... Il doit pas aimer la clé, je pense. Donc, à quoi servent un peu les nanophiles? En fait, maintenant, ça a plein d'utilités. Ça sert, dans tous vos haut-parleurs, vous avez simplement des joints en ferrofluide, parce que c'est très étanche, ça ne coule pas, parce que ça reste accroché à votre aimant, et ça permet de jouer, c'est les propriétés du lubrifiant. Ça sert en navette spatiale, par exemple, pour comme accéléromètre. Et je n'ai toujours pas le... Donc ça sert comme accéléromètre dans la navette spatiale. On arrive à faire des écrans tridimensionnels en ferrofluide. On arrive aussi à, avec les petites particules de ferrite, ça sert dans certains traitements du cancer. Alors pourquoi? C'est simplement, au lieu de mettre des particules pour que ça reste en solution, on met des petites particules qui vont les permettre de s'accrocher sur les cellules tumorales. On les injecte au niveau des cellules tumorales, vont se coller au niveau des cellules tumorales. Et les aimants, ils ont une propriété. C'est que si je mets un champ magnétique oscillant, c'est-à-dire j'ai les pôles, je mets mes petites particules dans un champ magnétique qui va changer de pôle, ben les petits aimants, ils vont simplement changer de sens. Et le problème, c'est que, enfin, l'avantage, c'est qu'ils vont commencer à frotter, puisque quelque chose qui tourne, ils vont frotter sur l'environnement autour, donc ils vont dégager de la chaleur. Et ils vont élever la température, par exemple, jusqu'à 42-43 degrés localement, et ça suffit pour tuer les cellules cancéreuses. Donc c'est utilisé encore, c'est des choses qui restent encore expérimentales, c'est utilisé pour le traitement de certains tumeurs du cerveau qui sont inopérables, et c'est les études de stade 2 et stade 3, il semblerait que ça ne marche pas trop mal. Donc c'est éventuellement des choses qui peuvent être utilisées par la suite pour des traitements. Donc une dernière chose que je voulais vous montrer, donc, qui est au niveau des nanotechnologies. C'est ça. Si je tourne, est-ce que vous voyez la couleur qui change? Je vais passer. En fait, c'est une opale. Vous voyez la couleur qui change?
Ah oui.
Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une opale? Ben, c'est normalement de la nanotechnologie naturelle. C'est simplement des nanosphères qui font à peu près une centaine de nanomètres de diamètre et qui sont organisées très très régulièrement. Et le fait qu'elles soient organisées très très régulièrement, ça leur donne des propriétés physiques assez fantastiques qui permettent de créer une couleur là où il n'y a pas une once de couleur. Là-dedans, vous avez des reflets bleus, verts qui apparaissent, alors qu'il n'y a pas du tout de colorant dedans. Et vous avez, au niveau de la nature, vous avez plein de papillons ou de coléoptères qui ont justement une carapace qui est colorée, alors qu'il n'y a pas du tout de colorant dans leur carapace. Et ça, c'est des technologies qui sont en plein développement, et on espère un jour même réussir à faire disparaître les choses en utilisant ce genre d'organisation, une échelle nanométrique. Et si vous avez lu un petit peu les lectures scientifiques, il y a des gens qui commencent à essayer de créer ce qu'on appelle des cristaux photoniques qui permettraient de faire disparaître la matière autour. Donc si vous êtes, c'est un petit peu la version Harry Potter technologique, vous auriez votre cristal particulier et vous deviendriez invisible. Bon, En fait, ça, il faudrait qu'il soit hémisphérique, des choses comme ça. Hein. C'est pas aussi bien que la cape d'Harry Potter, mais bon, on fait un peu ce qu'on peut quand même. Hein. Et voilà. Donc, à défaut d'ordinateur, j'ai redonné la parole que j'ai longuement prise.
Ben voilà, donc je pense qu'on a balayé assez large quand même sur les problématiques artistiques, les problématiques laboratoires, la pédagogie et puis la découverte de ce monde un peu particulier. Alors maintenant, ben, on va finir. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Nous avons artistes, scientifiques présents. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
Me permettre une dernière chose au niveau des nanotechnologies. Vous savez qu'il y a eu des débats sur les nanotechnologies et il y a eu des grandes polémiques. Bon, les nanotechnologies, je ne vais pas vous dire que toutes les nano choses sont bonnes pour la santé, on est clair, mais ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui a nano devant, ça va vous tuer directement. Donc malheureusement, c'est comme toutes les choses créées par l'homme, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Après, il faut bien sûr faire attention de... Il faut faire attention avec les nouvelles choses qui sont créées, mais malheureusement, c'est pareil avec tous les médicaments. On a eu des exemples de médicaments assez récemment qui ont défrayé un peu la chronique. Il n'y a pas une once de nanotechnologie dedans, et pourtant, ça a tué des milliers de personnes. Donc, les nanotechnologies, ça peut être dangereux, mais ça peut aussi sauver les gens. Donc, il faut faire la part des choses. C'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est forcément mal. C'est pas forcément bien non plus. Il ne faut pas oublier que la nanotechnologie tueuse, ben elle existe déjà. Ça s'appelle les virus et les bactéries. La nature ne nous a pas attendus pour créer des trucs qui sont à base de nanotechnologie, qui peuvent vous tuer juste avec une simple exposition. La vie, c'est intrinsèquement de la nanotechnologie. Donc, refuser la nanotechnologie, c'est vous refuser vous-même.
Le vivant, c'est un petit peu problématique, mais si on regarde froidement ce que c'est que le vivant, c'est des nano-usines, c'est-à-dire que toutes les usines du vivant, elles sont de taille quasiment nanométrique. C'est-à-dire que si vous regardez un ribosome qui est l'usine à fabriquer des protéines, c'est de taille nanométrique. Votre ADN, taille nanométrique, qui code votre information, c'est plein d'objets qui sont de taille nanométrique. Après, forcément, si vous voulez créer un nanorobot, ben, c'est un ensemble de sous-ensembles nanométriques. Il ne peut pas être... Il est moins obligé de faire 100 nanomètres ou un micron. Mais le cœur de la machinerie, elle, est nanométrique.
Par exemple, on parlait... Pas un micron, parce qu'on vous enregistre.
Ah, d'accord. Donc, tout à l'heure, on parlait des ailes des papillons qui sont... Est-ce qu'on parle aussi encore de nanotechnologie concernant...
Le cadre des ailes des papillons, c'est vraiment de la nanotechnologie, puisque si vous regardez les ailes des papillons, c'est des espèces de petites écailles. Alors là, j'ai une magnifique photo qui est derrière l'écran bleu. Où en fait, vous voyez que c'est des petites écailles qui sont organisées les unes à côté des autres. Ça fait un peu comme des échelles. Et l'ordre de grandeur, c'est vraiment de l'ordre de 100 nanomètres. Encore.
D'accord, donc on parle de nanotechnologie, pas forcément de quelque chose créé par l'homme. Ça peut être...
C'est pas la nanotechnologie, c'est c'est la nano-évolution, si vous voulez. Je sais pas si...
Parce qu'en fait, c'est le terme nanotechnologie qui fait bizarre, je trouve.
Si vous voulez, on fait du biomimétisme pour reproduire des structures nanométriques qui sont, elles, de la nanotechnologie, qui vont reproduire les mêmes propriétés que l'aile du papillon. Mais l'aile du papillon, on ne peut pas vraiment dire que la nature fait la nanotechnologie. C'est juste qu'elle a utilisé... l'homme utilise les mêmes... truc pour réussir à obtenir des propriétés semblables. Donc des propriétés de couleur en particulier, mais ça aussi d'autres propriétés pour les télécommunications par exemple.
Oui, moi je citais aussi comme exemple dans les nano-objets dangereux et tueurs, ce sont les nanoparticules que l'on trouve dans la fumée de cigarette. Là, ça se compte par milliards de nanoparticules par centimètre cube. C'est énorme et il y a eu des études très très fouillées qui ont été faites. Le paradoxe, c'est que celui qui ramasse le plus de nanoparticules, c'est-à-dire donc d'objets qui ont vraiment la taille entre 0 et 100 nanomètres, c'est le fumeur dit passif, c'est-à-dire celui qui est à côté du véritable fumeur qui, lui, va inhaler plutôt des particules un peu plus grosses. Donc c'est un peu le paradoxe. Alors ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, il a été très célèbre l'an dernier, c'est quand il y a une éruption volcanique du type de celle qui a eu lieu en Islande, le nombre de nanoparticules émises à l'atmosphère est absolument faramineux et on les a tous dans le monde respiré, hein, même si nous, on n'a pas eu de nuages, évidemment, on n'a jamais rien en France, mais on en a respiré. Voilà quelques exemples donc, de nano-objets naturels ou pas naturels, parce que quand on pense à fumer une cigarette, ce n'est pas tout à fait naturel.
Mais encore une fois, malheureusement, je répète, il y a des nanos qui sont gentils, des nanos qui sont méchants. Mais on ne sait pas forcément qui sont les gentils, qui sont les méchants, hein, bien sûr. C'est ça le problème de la recherche. C'est pour ça qu'on fait des études derrière pour voir la dangerosité de certains composés. Après, il y a d'autres choses. Vous voyez que les nanotechnologies, c'est aussi une science qui est frontière. Et ce qui est intéressant, c'est son utilisation dans des domaines qui ne sont pas directement scientifiques ou technologiques, comme par exemple là. Et vous voyez qu'en ce moment, il y a une explosion sur vraiment l'utilisation de ces technologies vers des finalités qui sont pas celles qui avaient été sélectionnées initialement.
Moi, j'avais une question pour le public. Est-ce que vous avez une orientation scientifique ou artistique ou les deux ? Ah, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Parce que, en général, quand on parle de nanosciences, on voit toujours arriver des scientifiques, mais c'est très bien.
En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant, si vous avez étudié un petit peu l'histoire de l'art et des pigments, c'est que les artistes ont souvent utilisé les dernières connaissances au niveau, par exemple, des pigments pour l'utilisation dans la peinture. Un exemple, c'est Léonard de Vinci qui crée lui-même ses couleurs pour le meilleur et pour le pire, parce que malheureusement, si on prenait les couleurs initiales de la Joconde, elles n'ont rien à voir avec les couleurs ternes qui existent actuellement. Parce que Léonard de Vinci utilisait des pigments souvent organiques, et l'inconvénient des pigments organiques, c'est que simplement la lumière, il ternisse assez rapidement. Après, vous avez eu la création de plein d'autres pigments, justement, avec, au niveau des impressionnistes, vous avez des couleurs vraiment qui sont pétantes. En particulier, vous avez des jaunes, pâles qui sont apparus, qui sont marrants, qui sont en fait des oxydes d'uranium. Donc, si vous voyez dans un tableau impressionniste un jaune paille, c'est des choses qui ont été découvertes vers la fin du 19e siècle et qui ont permis justement d'avoir ces couleurs assez spéciales. Donc, les artistes ont toujours été assez proches des développements scientifiques de leur époque. Ils les ont utilisés, pas forcément en travaillant directement avec les scientifiques, mais ils ont été amenés à les utiliser parce que ça leur permettait de voir leur art vraiment développé.
Ça fait qu'un siècle, disons deux siècles, que c'est vraiment spécialisé. Avant, les grands artistes, ils étaient aussi inventeurs, écrivains, philosophes. Bon,
quatre siècles que c'est vraiment spécialisé. Léonard de Vinci, justement, c'est pour ça aussi que c'était un maître de son époque. Si vous regardez certaines œuvres, il y en a une qui est exposée à Washington, qui est une jeune mariée qui est super triste d'ailleurs sur le tableau, c'est horrible. Mais elle a un teint de porcelaine, parce qu'il a réussi il a fait des travaux sur des mélanges de coquilles d'œufs super importants, de manière à avoir des rendus qui, malgré 5 siècles ou 6 siècles passés, n'ont pas du tout changé. Donc, tout ça, c'était des technologies qui étaient empiriques, mais qui ont été au service vraiment de l'œuvre d'art.
J'ai pensé, lorsque j'ai vu le noir de l'esquisse,
oui.
Au noir de Soulages.
Ça, c'est à l'artiste de répondre.
Soulages, en même temps, c'est un peu la référence du travail avec cette couleur-là, en fait, c'est la couleur noire. Après, moi, c'est pas forcément un artiste auquel j'ai pensé pour créer Steve, mais ça, c'est vrai que ça me paraît évident que ça puisse faire penser à ça, oui.
Après, moi, j'ai quand même beaucoup essayé de changer la couleur du ferrofluide. Et on a fait avec Jean-Sébastien des essais concluants qui sont tout à fait variables maintenant. Mais moi, j'aimerais beaucoup arriver à avoir de nouvelles couleurs pour le ferrofluide aussi, pour créer d'autres pièces qui auraient d'autres symboliques et d'autres charges émotionnelles.
Par exemple, on a travaillé sur des ferrofluides dont la couleur, avec plusieurs zones de couleurs qui seraient liées au mouvement, des choses comme ça. Donc ça, c'était des essais qu'on avait commencé à faire et qui sont vraiment entre le désir de l'artiste d'un certain ressenti vis-à-vis de l'œuvre et après le caractère technique qui est lié à la chimie du système.
Voilà, mais je vais peut-être 22h30, excusez-moi. Je vous remercie, je tiens à remercier Jean-Sébastien qui a fait le déplacement de... Ah, une question ? Oui. Allez, je me déplace.
Oui, bonsoir. Vous avez cité les nanotechnologies comme moyen thérapeutique, notamment en chimiothérapie, etc. Alors, créer des nanoparticules, très bien, génial, comme des têtes chercheuses sur les cellules cancéreuses. Mais après, quid de la quantification de ce qu'on a, déversé, en fait ? Comment doser le traitement, notamment lors des chimiothérapies ?
Globalement, la quantité versée, vous avez simplement la quantité que vous injectez directement. C'est-à-dire que les nanoparticules, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'on n'est pas capable de savoir exactement la quantité avec laquelle on travaille. Ça, on sait très très bien quantifier la quantité avec laquelle on travaille, même si c'est vraiment des microgrammes ou des choses comme ça.
Et quels sont les moyens d'imagerie pour quantifier le reçu de cela ? Est-ce qu'on a d'autres techniques que de savoir combien on a déversé ? Est-ce qu'on a des moyens d'imagerie, des couches de, je ne sais pas, spinéco ou autre, TEP, PET,
alors,
tout ?
Je ne suis pas un spécialiste de genre de technologie, mais je crois que dans le cas des nanoparticules magnétiques, juste simplement en gardant la réponse, on sait exactement la quantité qu'on a injectée, où elle se trouve à peu près. Parce que comme c'est des particules magnétiques, si vous avez des imageries magnétiques, il faut faire attention à quelle imagerie magnétique vous utilisez, mais vous êtes capable de localiser à peu près où c'est. Le principal problème de ce genre de technologie, ça va être plutôt l'élimination du corps.
Oui.
C'est l'accumulation.
Dans le cas des ferrites, le danger est relativement limité parce que la ferrite est biocompatible et avant que vous mouriez, vous aurez sûrement, il faut vraiment avoir des dizaines de grammes de ferrite dans le sang. Mais le problème, c'est que si vous l'injectez dans le cerveau, ça va être très très dur à éliminer du cerveau. Donc certainement, quand on vous l'a injecté, ben vous l'aurez à vie.
Mais c'est oui, puis on ne peut plus passer dans des matériels de TEP. On ne peut plus faire les TEP à ce moment-là parce que ça brouille tout.
Ah, c'est sûr. Enfin, après, il ne faut pas oublier que c'est des traitements...
On n'a plus l'imagerie possible, oui.
C'est des traitements qui sont faits pour des phases terminales de cancer. Des gens...
Oui, je sais.
Soit vous mourrez, soit... Il ne nous reste plus que ça.
Ah oui, d'abord. Oui, d'accord.
Donc après, c'est vrai que vous
ne pouvez plus jamais... vous voir dans la machine. Oui,
on ne pourra plus jamais vous mettre dans une...
Non, on ne peut plus la mettre dans la machine.
Parce que sinon, ça risque de faire des dégâts dans votre cerveau. Et après, je ne sais pas si on a des retours sur le temps qu'il faudra pour éliminer votre
ferrite. En fait, c'est le gros problème aussi des nanotechnologies aujourd'hui, c'est que le cycle de vie des nanoparticules, des nanotubes de carbone, etc., n'est pas connu. Et dans la mesure où on ne sait pas les quantifier dans la nature, puisque c'est très, très difficile à détecter, le vrai problème, il est là. Donc il y a l'accumulation dans le corps, son élimination. Voilà.
Au-delà des problèmes de thérapie, nous avons eu une conférence ici au mois de juillet qui était assez mouvementée dans la mesure où les nanos sont un peu présentes partout. Et voilà, quoi. Soit on applique un principe de précaution drastique et on se rend bien compte qu'il y a aussi des aspects juridiques absolument redoutables entre ce qui se passe en France, la considération de ce qui se passe en France et en Europe, et que, de toute façon, on est déjà clairement envahi par ces produits-là, dans les vêtements, dans les aspects alimentaires et la cosmétique. et qu'on ne sait pas encore réellement ce qui peut se passer à moyen terme, à long terme, au niveau de, du fait que ces particules passent allègrement l'épiderme et les aspects musculaires. Donc voilà, on est un petit peu bluffé aussi par je pense, certains juristes qui travaillent pour les gros laboratoires. Mais ça, c'est un autre débat. Je sais qu'il est extrêmement houleux. Nous l'avons eu ici dans cette salle et que je pense que les citoyens ont besoin d'être informés et que l'information n'est pas forcément au rendez-vous là-dessus. Nous, on a essayé de le faire sur un domaine, on parlait des méchantes et des gentilles particules. On a essayé de le faire dans le domaine de la créativité parce qu'il nous semble que c'est être un domaine pas trop nocif, en tout cas qui apporte du bonheur et de la réflexion. Mais c'est vrai qu'on peut être réellement effrayé et en tout cas critique par rapport à une société où l'information n'est pas au rendez-vous et on cherche à nous un petit peu à nous donner une information en tout cas très manipulée. Je vais peut-être clore ici. Je vous remercie en tout cas de ces questions et je reviens sur Jean-Sébastien et son déplacement de Montpellier. C'est pas évident Montpellier-Poitiers et l'enthousiasme qu'il a mis pour participer à cette conférence. Yves, qui est toujours au rendez-vous pour parler de science, d'art et qui est un grand défenseur au sein de cette maison de posture artistique, de réflexion, qui contribue à la pensée scientifique, mais parfois de façon un petit peu exotique, mais néanmoins réfléchie. Je tiens aussi à remercier, bien évidemment, Selma, qu'on soutient dans son travail et auquel on croit réellement parce que voilà quoi, elle a un beau parcours et je pense qu'il y a encore de belles œuvres à venir. Donc pour les jeunes artistes, pour nous c'est un exemple qu'on trouve assez magnifique de réussite, d'envie et puis de passion. Et puis derrière, je remercie aussi Grégory parce que Grégory c'est un homme de l'ombre, c'est ce qu'on appelle un peu les producteurs. Grégory, il a choisi un cheminement pas évident. Il produit de l'art numérique, il produit des choses. En plus, il a bossé chez nous il y a une dizaine d'années. Et un beau parcours aussi. Parce qu'il faut des producteurs, des gens qui aient le courage de monter les opérations. Vous en avez entendu parler. Quand on monte une opération et qu'une œuvre vaut 1 300 000 euros, il faut avoir parfois les nerfs et le cœur bien accroché. Voilà. Et surtout, on vous remercie. Parce que c'est toujours bien d'avoir un public et vous avez été particulièrement attentif sur un sujet pas forcément évident et en espérant que ça éclairait un petit peu votre chandelle sur ce domaine un peu particulier et que vous prendrez plaisir à faire du nano-art dans la joie et la bonne humeur. Allez à Enghien. En attendant que l'expo vienne à Poitiers. Merci, bonne soirée.